Voilà, la guitare de Jimi Hendrix est toujours là pour accueillir Onde Noire, donc la deuxième.
Segundo, on va dire, on va se mettre à l'onde de Dewa.
Segundo, voilà.
Voilà, Onde Noire, Segundo. Et ben, je vais illuminer votre ciel de bleu. Pas très longtemps, parce que je vais vous parler d'un roman à la couverture d'un bleu magnifique, mais c'est un roman très noir. Alors dans ce bleu magnifique est représenté une petite vierge en plastique, vous savez, un petit peu comme celle qu'on vend à Lourdes là, avec de l'eau sacrée consacrée.
C'est une bouteille de coca, moi.
Eh ben oui. Ce qui est rigolo, c'est que en fait, ça a la même forme un peu étrange, mais très caractéristique, que la bouteille de coca. Il serait temps quand même de donner le titre du roman. Ce roman s'appelle donc Le Blues de la Harpie. Premier roman, décidément on découvre plein d'auteurs ce soir. Premier roman traduit de Joe Menno, aussi un Américain. Et c'est aux éditions, alors c'est chez Agulo Éditions. Et c'est un roman qui est traduit par Morgane Sessana. J'espère que je prononce bien le nom de cette traductrice. La harpie, on croit tout de suite, moi j'ai cru aussi, c'est pas une mégère. C'est tout simplement le nom d'un village en Illinois. Illinois, je crois.
Illinois.
Illinois en anglais. C'est là que revient s'installer dans ce petit village, Luslemay, car c'est le village de son enfance. C'est aussi pour y retrouver Junior Breen, qu'il a rencontré en prison et il a sympathisé avec lui. Et donc, vont se retrouver deux clochards célestes, deux damnés, qui tentent de montrer leur cœur pur, vraiment, d'expier leurs péchés. Et leurs péchés, ils sont lourds, très lourds. Et je ne vais pas dévoiler leurs péchés, pas tout de suite. Ou alors, je vais vous laisser le découvrir. Et ils commencent tous les deux à travailler au gas and go. Vous savez, ces vieilles pompes à essence américaines. Vous savez, le tableau si célèbre de Edward Hopper. Un mec qui croit en leur rédemption, les emploie, les aide, c'est le propriétaire du gas and go. C'est bien le seul d'ailleurs, le shérif un peu peut-être aussi. Pour les autres, même pour les plus jeunes, même pour les enfants, ils sont maudits. Ce sont des parias irrécupérables. Alors, quand d'une des plus belles filles du village, en plus un peu nantie, tombe amoureuse de Luce, la boîte de Pandore s'ouvre en grand. Fuir, rester, mourir, expier, il n'y a pas le choix. De toute façon, tout n'est que souffrance. Je cite le romancier, « Il est des blessures que l'on ne peut jamais panser, il est des blessures que l'on ne peut jamais chasser. » Pour l'écrivain, d'une façon ou d'une autre, tous ces personnages sont quelque part des monstres. Junior Breen, un colosse à la force herculéenne, au QI d'un moineau, à la gentillesse sauvage. Lui qui transforme les pubs de la station-service en poèmes surréalistes. Je cite l'auteur, « Rien ne durait jamais auprès de lui. Tout se fondait au noir et s'effritait entre ses doigts pour redevenir poussière. » Et Luce, son copain, le local puisqu'il revient au village, lui qui a renversé un berceau au volant d'une voiture et tué un bébé. Mais aussi tous ceux qui vont à l'église tous les dimanches, mais qui lynchent le samedi. Dans ce petit village, de point ouvrez les guillemets, il n'existait aucune différence entre un saint et un pécheur, ni dans la peau, ni dans la chair. Tout provenait du sang douceâtre qui coule dans les veines. Tout provenait de la tendre vérité tapie au tréfonds des êtres. La frontière entre les deux était mince et poreuse. Fermez les guillemets. La frontière entre le bien et le mal qui n'existe pas, tout au moins au sens commun du terme. Il reste les cœurs purs, comme Luce et surtout Junior. Mais la harpie, ces villageois, peuvent-ils comprendre un cœur pur? Joe Menno y prend au départ une base assez classique, assez connue du roman noir américain. La route, deux paumés qui tentent de s'arrêter quelque part, de se poser, peut-être d'oublier. Un village du trou du cul du monde, en pleine campagne, presque du nature writing. Le passé qui les rattrape par les autres, mais ce passé est avant tout tapis au fond d'eux-mêmes. Classique donc, mais les variations sur le thème sont habilement jouées. Et le ton sonne toujours juste. L'écriture alterne entre la sécheresse de la violence humaine exacerbée et le lyrisme sans emphase des beaux moments. Et je parlais du QI d'un moineau. Il y a une scène qui est très belle. C'est un moineau qui fait son nid dans les cheveux d'une vieille dame morte. Et c'est un passage d'un très beau lyrisme. Voilà, il y a beaucoup de force à des moments dans l'écriture, beaucoup de noirceur, et puis de temps en temps, des petits moments de lumière, mais des moments de lumière complètement inattendus. Donc, faites attention, hein, il y a un graphisme particulier, il y a une charte graphique très, très intéressante. Donc, c'est pas toujours évident de trouver le titre et le nom de l'auteur, mais vous êtes attiré par le bleu. Ça s'appelle Le blues de la harpie. C'est un livre de Joe Meno, traduit par Morgan Sessana, et c'est chez Agulo Éditions.
Ce que je me demande, c'est si harpie en anglais, ça a la même signification que nous.
Écoute, tu me fais How the Hula Girl Sings, c'est le titre original. Donc The Hula, on verra si peut-être ça a aussi cette signification de nom commun et qui signifie donc une femme pas très gentille. Pour illustrer un petit peu ce roman, j'ai demandé à mon fournisseur habituel de musique, c'est-à-dire Jacques, d'aller fouiller dans le bluegrass, dans le blues et tout, parce que d'abord, Joe Meno le cite à un moment donné, Luce a envie d'écouter cette musique-là, et puis cela sied parfaitement au ton du roman. Donc je laisse Jacques annoncer cette morceau de musique.
Donc l'auteur de la chanson que nous allons écouter s'appelle Robert Earl Keen, c'est un fameux chanteur et guitariste de bluegrass, et la chanson que nous avons choisie s'appelle Little Cabin on the Hill. Non, Little Cabin Home on the Hill, et ce qui finalement, c'est pas si mal que ça par rapport à ce que tu nous racontes, chercher une petite, une petite cabane,
chercher un abri
pour se caler.
On écoute. Passe. c'était du Bluegrass, Robert Orkin. Et nous avons le grand plaisir de retrouver Jean-Marc Lehrer. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va. Il y a eu un petit contretemps, mais nous y voilà.
Voilà. Eh bien, c'est parfait. Mais tout est impeccablement planifié. Donc, vous allez nous parler du dernier roman d'un auteur espagnol qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Victor del Árbol.
Voilà, Victor del Árbol, qui commence quand même à être connu des amateurs de polar, et dont le dernier roman est sorti en janvier dernier. Ça s'appelle « La veille de presque tout ». C'est paru, comme d'habitude, chez Actes Sud, Actes Noir, et c'est traduit par Claude Bleton. Alors, maintenant, Victor del Árbol commence à être connu. Son roman précédent avait fait pas mal sensation, toutes les vagues de l'océan. C'était un gros roman à la fois historique, présent,
très ample.
Et là, c'est en Espagne qu'il a fait sensation avec toutes les vagues de l'océan, puisqu'il a gagné un prix qui s'appelle le prix Nadal, qui est un prix assez prestigieux, qui n'est pas un prix polar.
Mais qui n'est pas un prix de tennis non plus, hein, faut bien préciser.
Non.
Le prix Nadal.
Voilà, ça n'a rien à voir avec Raphaël, et parce que c'est bien plus vieux que Raphaël. C'est un prix généraliste qui récompense le meilleur roman de l'année. Et je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Ça serait bien qu'en France, des fois, on voit aussi des polars gagner des prix qui ne sont pas des prix que polars. Mais bon, fin de la parenthèse.
Oui, non, mais c'est une jolie idée, mais je pense qu'il va falloir encore du temps, Jean-Marc, je pense.
Oui. Alors, de Victor del Árbol, c'est pas le premier qui a gagné ce prix pour un auteur de polar, mais c'est un des rares.
Mais je crois que Montalban, je me demande si Montalban, qui est un grand auteur en langue espagnole, grand auteur de romans, toutes catégories confondues, je me demande s'il n'avait pas eu aussi ce prix-là. Mais bon.
Je crois qu'il a gagné aussi, oui.
Bon, enfin, revenons à Victor.
À Victor et la veille de presque tout. Donc on va suivre plusieurs personnages, dont l'enquêteur, là, il s'appelle Ibarra. Il est de retour en Galice après des années où il a été inspecteur à Malaga, donc dans le sud de l'Espagne, et des années qui se sont conclues par une affaire retentissante. Il avait arrêté le meurtrier d'une gamine de 10 ans. Et en fait, il l'a arrêté, mais il l'a abattu sur place quand il a découvert le corps. La fillette, elle venait d'une famille extrêmement riche et extrêmement influente, donc les relations de la famille avaient permis de le blanchir. Et donc, il avait été dit plus ou moins qu'il avait le meurtrier avait tenté de se débattre, de l'abattre et autres, il avait dû le descendre. Mais lui, même s'il a été blanchi et s'il se retrouve donc inspecteur en Galice, il a tout ça qui le perturbe quand même gravement. Il a un fils malade, son couple bat de l'aile. Les images du meurtre continuent à l'empêcher de dormir. Donc on se retrouve avec un héros de polar, on va dire, comme on en connaît beaucoup, un flic.
Oui, c'est assez classique.
Voilà, qui boit, qui prend des médicaments, qui prend des cachetons parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et puis, une nuit où il est de garde, une femme est admise aux urgences de l'hôpital de la Corogne, elle a été tabassée et elle ne veut parler qu'à lui. Donc il la rejoint, et quand il la rejoint, tout le passé va lui remonter à la figure parce qu'on va vite apprendre que cette femme, c'est la mère de la petite Amanda, justement. On retrouve cette mère qui s'était réfugiée un temps, on va la suivre, on va avoir beaucoup d'allers-retours entre le passé et le présent, comme toujours chez Victor del Árbol, comme toujours chez lui, le mal n'est pas un mal métaphysique, c'est un mal qui prend ses racines dans l'histoire du XXe siècle.
Et en particulier dans le franquisme.
Et dans le franquisme, et ici aussi, parce qu'on a tout un personnage dans la dictature argentine, les disparus, l'école de mécanique, les tortures et tout ça. Alors Victor del Árbol, comme d'habitude, il a un grand talent pour tresser ses histoires.
Ah, c'est impressionnant.
Il est incroyablement un excellent artisan, on va dire, peut-être.
Il faudrait un jour lui extorquer sa manière d'entremêler les fils des différents destins et des différentes histoires, parce que c'est toujours avec un grand brio.
C'est très très bien fait, c'est jamais forcé. On passe d'un passé récent, un passé plus ancien, au présent. Il arrive à mêler, mais c'est son grand... C'est comme ça qu'il veut écrire.
Lui, c'est presque sa patte.
c'est sa patte. Et lui, ce qu'il veut faire, c'est raconter les histoires à l'intérieur de la grande histoire. C'est-à-dire, il dit, ce qu'il raconte, c'est que quand il voit une photo historique, entre guillemets, et ben lui, ce qu'il veut faire, c'est raconter les histoires de chacun des personnages qu'on voit sur la photo qui ne sont là un peu comme, que comme des symboles. Mmh. Et donc voilà, on va le retrouver dans son écriture, on va le retrouver dans la description des tourmentes de ces personnages qui sont toujours abîmés, qui sont... On va retrouver aussi sa capacité à décrire aussi bien quelqu'un qui se torture que une tempête sur la côte galicienne. Et tout en étant... il ne fait jamais de voyeurisme, il décrit les pires horreurs du XXe siècle. Il ne le fait jamais avec ce côté gore un peu racoleur. C'est toujours pudique, mais c'est toujours très fort.
Je pense que c'est une des raisons d'ailleurs de son succès, aussi bien en Espagne que en France depuis qu'il est traduit, et effectivement surtout depuis son dernier, mais même les précédents avaient intéressé beaucoup de monde.
Oui, oui, La tristesse du samouraï était vraiment aussi un roman très très fort. Toutes les vagues de l'océan lui avaient fait passer un cap, j'avais trouvé, et là on retrouve voilà cette écriture, cette capacité à mêler les destins, à mêler les époques, à mêler les histoires, et à toujours finalement se retrouver du côté de ceux qui ont perdu, qui ont raté, qui ont été humiliés, abîmés, qui essayent de survivre malgré des blessures dont on parle plus parce qu'on préfère les oublier. Et puis il réécrit une fois de plus aussi les mythes et les légendes de notre imaginaire politique. Il avait parlé beaucoup de la guerre d'Espagne ou de l'URSS, là c'est l'Argentine, la torture. Il se donne comme mission de donner une chair et une complexité à des choses qu'on voit maintenant un peu comme des clichés.
Qu'on a un peu banalisé, ou
qui sont devenus des légendes ou des mythes.
Malheureusement, je sens qu'il va avoir beaucoup d'inspiration.
Il se pourrait qu'il ait rapidement beaucoup d'inspiration.
Oui, effectivement.
Il n'est pas prêt d'en manquer, non, je pense.
Non. Mais de toute façon, je pense qu'il avait déjà beaucoup de photos. Puisque vous avez effectivement, c'est comme des évocations de ces personnages. Il voit c'est un portrait. Et c'est aussi un portrait de la société actuelle et passée, finalement.
Bien sûr, bien sûr. Et puisque très souvent, enfin toujours chez lui, ce qui se passe aujourd'hui plonge ses racines dans un passé. Plus ou moins récent.
Et ça va bien au-delà de l'Espagne, en fait. Hein, c'est...
Ah oui, oui.
Oui, puisqu'on parlait de la dictature argentine.
Oui, mais en fait, ça inclut aussi nous en Europe, parce que voilà, les histoires du franquisme, ça nous a aussi influencés, impliqués, etc.
Oui,
Y a toujours des histoires.
Et surtout ici, là où je suis, à Toulouse. Et
puis, à Toulouse.
On se souvient qu'il a parlé aussi de la guerre d'Algérie, qu'il a parlé de l'URSS, qu'il a parlé, il brasse tous ces mythes finalement politiques du XXe siècle. Il les reprend et il leur donne une chair et il y fait vivre des gens à l'intérieur. Ouais. Et donc il les complexifie forcément.
Donc on va redire, on arrive à la fin de l'émission. Donc Jean-Marc, si vous le voulez bien, on va redire le titre du roman.
Oui, ça s'appelle La veille de presque tout. C'est donc de Victor del Arbol, l'espagnol. C'est chez Actes Sud, Actes
Et on Noir. Redit le nom du traducteur parce qu'ils font du super boulot, ces gens.
Oui, c'est Claude Bleton.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Je rappelle qu'on retrouve beaucoup de vos chroniques sur le blog d'Actu du Noir. Vous êtes un dévoreur de livres et vous mettez beaucoup, beaucoup de chroniques, des romans que vous aimez beaucoup. Et puis j'espère à très bientôt. Merci, au revoir.
À très bientôt, merci. Bonne soirée.
Bonne soirée. Il reste à conclure cette émission. Donc, on va saluer nos auditeurs. On va dire la formule consacrée. Chacun dans son coin avec un bon bouquin jusqu'à la prochaine fois ou plusieurs. Bonsoir, Jacques.
Bonsoir, Corinne. Bonsoir à tous et bonne lecture.
À bientôt.